au prénom. Bonsoir à tous. Donc, table ronde suivante. Sur les réseaux de points Un Monde Sans Frontières, ainsi que ça a été formulé. Alors, avec là encore des gens d'une extrême pertinence et d'une extrême qualité, je suis très ému de les présenter et de les accueillir. Alors, je vais commencer par Sylvie Lainée, ici présente, voilà, grande nouvelliste française, bien sûr, très connue pour ses nouvelles, qui a publié récemment plusieurs recueils chez ActuSF, dont le dernier sorti Marouflage, qui est un recueil de trois nouvelles, hein, qui reprend notamment l'une de ses nouvelles les plus connues et une des plus magnifiques, Les yeux d'Elsa. Donc merci d'être là, Sylvie. À côté de moi, juste à ma gauche, Jeanne A. Debatte, voilà. Debatte, qui est aussi une novelliste hors pair, et qui l'a montré déjà à plusieurs reprises, et aussi avec un format en particulier qui, moi, me plaît énormément, bien sûr, qui est la novella, avec La vieille anglaise et Le continent, qui a été multiprimé l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans, ouais, voilà. Et puis qui vient de faire paraître chez La Talente, Players, un roman qui vient juste de sortir et dont elle nous parlera et qui peut-être n'est pas tout à fait sans lien aussi avec le sujet de cette table ronde. Ensuite, en face de moi, tout au bout, Alain Damasio, l'auteur de La Horde du Contrevent, de La Zone du Dehors, et qui aura aussi beaucoup de choses à dire sans doute sur les réseaux, notamment dans leurs aspects sociaux et politiques, et j'y compte bien. Alain a aussi été à l'initiative récemment et a participé à 2 anthologies importantes qui sont parues chez La Volte, Ceux qui nous veulent du bien, qui réunit 17 auteurs à son initiative et qui a une dimension politique et sociale tout à fait marquée, et puis aussi une antho sur la schizophrénie, Le jardin schizologique. Et enfin, pour terminer, l'homme au chapeau, d'une grande élégance et d'une grande discrétion jusqu'à maintenant, mais il va vous parler, Laurent Klotzer. Voilà, un auteur aussi déjà bien connu de vous, l'auteur du Royaume blessé, de Mémoire vagabonde il y a quelque temps, et puis surtout l'auteur de Clear, qui est paru tout récemment et qui est un roman sur le monde des multinationales, hein, et qui n'est pas sans lien aussi également avec la question des réseaux. Alors on a réuni ces 4 auteurs avec leurs formations différentes, leurs parcours différents, leurs thématiques complémentaires, et leur parcours aussi en tant qu'acteurs du milieu de la science-fiction. Ils ne sont pas simplement là, en fait, pour moi, en tant qu'auteurs. Ils sont là aussi en tant qu'acteurs. Et lorsque je vais maintenant les interroger un petit peu sur ce que représente le réseau pour eux, j'attends bien et j'entends bien qu'ils me répondent, pas simplement sur le plan narratif, mais aussi sur le plan citoyen. Parce que je pense que la question d'un monde sans frontières ne peut être posée dans le cadre des réseaux sans cet aspect-là non plus. Alors, il y a tout un tas de raisons qui font que le sujet est très vaste et très complexe, et je vais essayer de serrer les thématiques que l'on peut aborder. Je vais commencer par une question un petit peu provocatrice que je vais leur soumettre à tous les 4, et qui est la suivante. Aujourd'hui, les réseaux se sont généralisés, Internet est omniprésent, les réseaux sociaux qui découlent d'Internet dans vos vies, Facebook, Twitter, etc., tout ce qui est blogosphère sont omniprésents. On sait bien que la cybersphère, le cyberespace a été mis à jour, bien évidemment, avant qu'il ne devienne une réalité pour chacun d'entre nous, par William Gibson dans Neuromancien, mais aussi dans Gravé sur Chrome, au début des années 80. Et j'ai envie de leur demander, à ces 4 auteurs ici présents, si finalement la généralisation du réseau, l'omniprésence du réseau dans vos vies, le fait que vous soyez tous là à nous écouter, mais vous êtes aussi tous avec vos téléphones portables, avec vos ordinateurs, avec votre moi connecté, votre avatar, que vous allez consulter tous très régulièrement, est-ce que cette généralisation des réseaux, finalement, n'empêche pas les auteurs de science-fiction de continuer à traiter de réseaux dans leurs romans et dans leurs nouvelles? Je veux dire, le réseau est-il toujours, en termes de réseau de communication, hein, pour l'instant on prend cet aspect-là des choses, le réseau est-il toujours un sujet pertinent pour la science-fiction? Alors, qui veut commencer par me répondre? Allez, peut-être Sylvie. Puis Sylvie, en même temps, je saisirai l'occasion, Sylvie, puisqu'elle est scientifique, entre autres, de formation, si elle peut nous redéfinir ce qu'est pour la science un réseau. Et si finalement la multiplication de ces réseaux-là, aujourd'hui, correspond à cette définition.
Bon, Puisque Hugo me propose de prendre mon étiquette universitaire, je vais le faire, mais pas longtemps, je préviens tout de suite, parce que ça pourrait devenir très ennuyeux. Mais dans le monde universitaire, habituellement, on associe l'idée de réseau à l'idée de communauté. Et ce qui est très troublant avec les réseaux sociaux, je pense, c'est moins vrai pour Internet, c'est qu'on est en train de diluer et de remettre en question cette idée de communauté qui, moi, personnellement, me paraît beaucoup plus importante que celle de réseau. Alors, si le réseau, c'est simplement la capacité à discuter avec n'importe qui à n'importe quel moment, finalement, on est déjà... Tu parlais de ce qui se passe dans ce lieu en ce moment, aux Utopiales ou même dans cette salle. On est déjà bien trop nombreux pour réussir à interagir tous les uns avec les autres comme on aurait envie de le faire. Alors, pouvoir potentiellement discuter avec quelques millions de personnes, de toute façon, on n'en fera jamais rien parce qu'on ne dispose chacun que d'un temps personnel restreint dans lequel on a toujours des tas de choses intéressantes à faire. Donc, la possibilité théorique de discuter avec à peu près n'importe qui à n'importe quel moment ne me paraît pas avoir beaucoup de sens. Après, il y a l'intérêt qu'il y a à rester en liaison avec ses proches. Bon, on arrivait à vivre en d'autres temps en s'envoyant des lettres qui mettaient quelques jours à rejoindre leur destinataire sans que le contact soit interrompu pour autant. C'est pas pour minimiser ce qu'est le réseau, mais je pense que, et là je suis sûre que ça va donner envie de réagir à tous mes camarades qui s'intéressent aux communautés, je crois que quand on est auteur de science-fiction, on est obligé de s'intéresser aux communautés, puisqu'on travaille quand même essentiellement sur ce que deviennent les sociétés, ce que devient notre rapport au monde quand la société se transforme, les nouvelles règles qui transforment les vies individuelles et qui les interrogent. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je dirais, ce qui est très troublant avec les réseaux sociaux, c'est le fait que la notion même de communauté n'a plus tout à fait le même sens. Je ne sais même pas si elle a encore du sens. Quand on parle de Facebook, nous avons chacun l'impression d'avoir une communauté d'amis. Mais la définition habituelle d'une communauté, c'est le fait que chacun des membres de cette communauté a la même définition de ce qu'elle englobe, que chacun y perçoit le même ensemble d'individus et la même thématique ou la même raison de rassemblement. Et on n'en est plus du tout là, puisque la communauté qu'on perçoit, on est la seule à la percevoir. Elle est donc purement virtuelle et elle n'a plus de signification. Elle n'est plus partagée par personne. Enfin, si je peux me permettre de revenir là-dessus, je crois que nous sommes dans une hallucination qui me paraît extrêmement perverse et dangereuse. Et là, je sais qu'il y en a au moins un qui sera d'accord avec moi, qui nous donne l'impression que nous sommes chacun le centre du monde à avoir défini une communauté qui, en fait, n'existe que pour nous et donc n'a aucun sens.
D'accord. Donc, il y a déjà, vous voyez, un élément très important, c'est cette distinction que fait Sylvie entre la notion même de communauté et la notion même de réseau. Et pour l'instant, on va rester sur cette thématique des réseaux de communication, en étant connexe, toujours, en gardant toujours à l'esprit la question que je vous ai posée sur pensez-vous qu'il s'agit toujours d'un élément utile pour l'auteur de science-fiction ? Alors, qui veut rebondir
Alors, à tout. Je vais un Jeanne. Tout petit peu Jeanne, contredire Sylvie. C'est vrai que Facebook peut donner cette illusion qu'on est au centre de l'univers et que notre énorme communauté de 300 amis, 400, 500, 2000 tourne autour de nous. Mais au final, si on est un tout petit peu raisonnable et si on paramètre la chose, on a une réelle communauté parce qu'on est réellement avec les siens. Et il n'y a que les siens qui ont accès à la communauté qu'on a faite. Là où c'est effectivement très dangereux, c'est lorsqu'on ne maîtrise pas l'outil, lorsqu'on n'en conçoit pas les limites. Personnellement, j'utilise Facebook, j'utilise les forums, etc. Je corresponds avec mes amis, avec mes proches, avec ma famille. Il y a des gens que je n'ai pas vus depuis des années, dont j'ai suivi l'évolution en temps réel, sans les voir, alors qu'ils sont de l'autre côté de l'Atlantique et que je ne les reverrai vraisemblablement jamais, puisque je ne pourrai plus jamais prendre l'avion, par exemple, pour des raisons personnelles. Donc, il y a ce danger-là, évidemment, d'être perdu au centre de ce vortex d'images, de gens, de lieu où parler. Mais si on sait raison garder, le danger finalement est assez restreint. En tant qu'auteur de science-fiction, moi je me sers du réseau comme lieu d'information, d'échange et d'apprentissage en plus. Et pour moi, c'est une source inappréciable d'échange, d'information et d'apprentissage.
D'accord. Donc, en fait, pour toi, Jeanne, le réseau, ce n'est pas tout à fait un objet narratif. C'est plus un objet pour préparer la narration, c'est-à-dire échanger des idées, expérimenter, etc. Et tu as une vision qui est différente de celle de Sylvie sur la notion même de communauté.
Sans compter le fun, parce que j'adore aller bourriner sur une question à la noix, sur genre, qu'est-ce que la SF avec des vieux potes et pendant des heures ergoter comme des commères sur un banc pour savoir si oui ou non tel livre rentre dans le cadre de la SF ou pas, etc. Mais ça n'a strictement qu'une... c'est un jeu, quoi.
D'accord. Alors Alain ou Laurent, puisque Laurent a le micro entre les mains, allons-y. Donc le rapport au réseau en termes narratifs, en termes d'utilité.
Moi, je pense que les réseaux sont toujours un objet narratif pour la science-fiction. Je vais prendre des exemples, pas du tout dans ce que j'ai fait, mais dans ce que j'ai vu et lu récemment. J'ai lu il n'y a pas longtemps une novella de David Maruzek qui s'appelle L'enfance attribuée, paru au Bélial, je vous dirai pas quand, qui montre des personnages, non c'est important, qui montre des personnages qui sont en interaction sociale hyper profonde avec des gens qui sont là, qui sont pas là, qui sont leurs amis proches, lointains, qui ont une communauté, qui décrit exactement ce qui se passe quand les gens vivent sur Facebook. Ces gens se marient sur le réseau, ils font un gosse sur le réseau, ils ont leur carrière professionnelle sur le réseau. Je me suis dit, ce type, il a tout compris à Facebook et il a écrit le livre en 1997. Voilà, donc déjà c'est un très bel objet narratif, mais là, à la limite, c'était plus une très belle prospective. Et dans le domaine des réseaux comme objet narratif, là je recommande un film fascinant qui s'appelle Summer Wars, qui est un film d'animation de Mamoru Hosoda, qui est sorti l'an dernier, et qui montre, dont l'objet narratif est Oz. Oz, c'est un croisement entre Second Life et Facebook. Vous avez tous vos amis, vous avez votre vie dessus, vous avez tout le monde à des avatars. Et le film, justement, plutôt que de se lancer dans des trucs bateaux sur « Oh là là, les réseaux, c'est dangereux » et « Regardez ce qui va se passer ici » et tout ça, montre d'abord, c'est un film qui, là c'est de la science-fiction, donne à voir. Parce que, excusez-moi, Facebook, c'est moche. Donc là, le film montre un réseau social tel que ça pourrait être, et là vraiment de manière positive, c'est-à-dire comme constructeur de communauté, comme constructeur de volonté de faire des choses ensemble. En fait, le film montre comment se construit une communauté de 400 millions de personnes, ce qui est pas mal. Et là vraiment, je pense dans le sens communauté, dans le sens de gens, j'espère que je ne trahis pas la pensée de Sylvie, qui se retrouvent autour d'un objet commun et non pas autour d'eux-mêmes. Autour d'une passion, d'une cause, d'un élément, voilà. Et le film, en fait, est entièrement tourné autour du relationnel, des réseaux, mais pas seulement réseau social, réseau familial, réseau amical, comme ça. C'est un film d'une très, très grande intelligence et en plus, franchement, qui donne à rêver.
D'accord. En plus, je crois qu'il est dans la... Il me semble qu'il est dans la sélection ici, présentée ici, Summer World. Alain, il reste à toi, nous donner ton point de vue sur le réseau, à la fois comme élément narratif, ouais, toujours d'actualité ou pas, et surtout le rapport que tu peux avoir au réseau.
Oui, pour moi, de façon évidente, le réseau reste un objet narratif, reste un objet de réflexion très fort, et dans mon prochain livre, il sera investi à ce titre, parce que tout simplement, ça pose la question du lien. Moi, c'est une question absolument centrale. C'est vrai que j'écris des livres que je considère politiques, c'est-à-dire qui posent la question du vivre ensemble et du collectif. Qu'est-ce que ça veut dire s'organiser ensemble, vivre ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire échanger ensemble? Donc ça pose viscéralement le problème du lien. Et le réseau est pour moi une réponse que je trouve très originale finalement, une réponse démocratique au problème du lien, mais une réponse extrêmement dangereuse. Et je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Sophie. Et, Sophie, ça y est, je parle même. Sylvie, voilà. C'est-à-dire que on est dans un système, pour moi, où il y a eu un développement extrêmement fort, on le dit très souvent, mais de l'individualisme, c'est-à-dire de la façon dont en démocratie chacun poursuit ses propres objectifs, sa propre liberté, et que par rapport à ça, le problème politique, c'était comment constituer, comment conserver cette capacité à relier les gens et à faire qu'il n'y ait pas un éclatement complètement atomique des choix individuels. Et c'est très délicat parce qu'on n'a plus effectivement ces phénomènes de communauté, on est beaucoup plus éclaté, beaucoup plus en mobilité, on est beaucoup plus télérelié qu'avant. Et le réseau vient répondre à ça, c'est-à-dire vient rejoindre les points individuellement et d'une façon rhizomatique, alors qu'avant on était réunis comme un groupe constitué autour d'un lieu, autour d'une communauté d'intérêt, autour d'une culture. Donc cette reliance à distance, je trouve ça intéressant. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. À cause de l'oubli du corps, pour moi, c'est quelque chose d'absolument central. Moi, quand les gens me disent « Ouais, ben, je communique par Facebook, c'est pareil finalement que ce soit, etc. » Non, pour moi, manquera toujours une dimension corporelle essentielle, une présence corporelle, qui est celle qu'on a quand on est dans un bar, quand on est dans un restaurant, quand on est dans une soirée avec des gens, où passe évidemment l'odeur, où passe un magnétisme, où passe une aura, où passe un charisme, où passe une séduction. Et on est dans des médiums froids, Facebook, comme tous les médiums téléreliés sont des médiums froids, c'est-à-dire qu'on passe par la vision, le sens spéculaire, éventuellement le son, éventuellement le texte, mais on n'est absolument pas dans un corps à corps, dans un face-à-face. Voilà, là on y est. Et là, c'est vachement intéressant ouais. D'ailleurs, parce que des fois je me dis, à quoi ça sert finalement cette présence, etc. Quand on est là par exemple, je me dis, bon, si je regardais cette conférence par Facebook ou par n'importe quel réseau, j'aurais absolument pas la même sensation que d'avoir les gens en face de moi et vous de m'avoir en face et d'avoir tous les invités ici en face. Il se passe quelque chose d'autre. On n'est pas simplement une voix qui passe par un micro, on n'est pas simplement un corps agité dans l'espace, on est aussi une présence. Et c'est cette présence qui crée pour moi la communauté, qui crée le lien. Donc je suis très inquiet effectivement sur les réseaux au sens où ça redonne du lien froid en substitut de ce que j'appelle moi le lien chaud, c'est-à-dire l'échange alors très traditionnel, très ancestral, mais... de la coprésence humaine, on va dire, tout simplement. Donc c'est un sujet, oui, pour l'ASF, mais c'est plus un sujet d'anthropologue du présent que de prospectiviste, comme c'était avant, sur Brunner, qui invente l'onde de choc, ou Gibson, où là, il y avait une anticipation extraordinaire. Nous, on est plus là, essayer de repayer le présent et essayer de comprendre ce qui se passe, parce que ça va très vite, et on est tous débordés. Enfin, moi, j'ai le sentiment d'être très vite débordé par ce qui se passe, même technologiquement. Ouais.
Dans Sur l'onde de choc, il le fait planter, d'ailleurs, le réseau, mais superbement.
Alors, oui, vas-y.
J'ai l'impression qu'on est en train de changer de sujet, mais c'était sûrement inévitable qu'on change de sujet, parce qu'on est obligé de parler, après la question des réseaux, on est tout de suite en train d'enchaîner sur la question de la vie virtuelle, finalement. Et je me demande si c'est pas ça dont tu es en train de nous parler. Et moi, je veux bien jouer le rôle de la méchante hein, dans la table ronde. C'est celle qui n'aime pas les réseaux, la vieille ringarde... je suis sur Facebook aussi, hein, mais je ne suis pas obligée d'aimer quand même.
Elle râle super bien sur Facebook.
C'est aussi une manière de pouvoir s'exprimer.
C'est une super râleuse.
Mais justement, pour revenir sur ce qu'a dit...
Mais attends, je n'avais pas fini. Vas-y. C'est pour dire que la vie rêvée avec le médium froid dont nous parlait Alain et les liens insatisfaisants par nature que l'on crée ou qui sont des pâles ersatz de ce que seraient des rencontres réelles ou une présence conjointe en un même moment et un même espace. Tout ça, finalement, je suis extrêmement pragmatique, mais on a une durée de vie extrêmement limitée et on dispose d'un temps pour vivre qui n'est pas extensible. Et c'est vrai que le temps qu'on passe à mener cette vie virtuelle et du temps qui n'est pas utilisé pour notre vie réelle. Alors, en même temps, c'est vrai ce que disait Jeanne, on arrive à y faire des choses intellectuellement et même affectivement et même sur un plan humoristique qui sont extrêmement jouissives. Mais qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pendant tout ce temps-là? Je suis désolée, mais moi, être en face d'un clavier, je ne trouve pas ça hyper excitant.
En ce qui me concerne, c'est à ce moment-là que je travaille. Et ça me sert de respiration. Donc, effectivement, je ne perds pas le temps en question. Jamais. Mais je conçois que... J'ai entendu des amis me dire « J'attends qu'il y ait un nouveau message qui s'affiche sur Facebook. » Ça, ça ne m'arrive jamais. J'ai écrit un certain nombre de trucs, j'ai arrangé un certain nombre d'affaires, et je vais voir ce qui se passe. 5 minutes, ok, il ne s'est rien passé... Bisous à la copine qui a un gros chagrin. Si, il m'est arrivé, je l'ai dit dans une autre conférence, un truc assez étrange, enfin assez atroce, il y a une semaine. J'ai appris la mort de quelqu'un que je connaissais par sa page Facebook. Ça a été juste un moment épouvantable. Il y avait des messages de condoléances sur ce mur que j'avais l'habitude de visiter et jamais plus elle répondrait. Voilà.
Justement, ça me permet d'aller sur un élément que j'avais gardé plutôt pour la fin, mais c'est autant y aller tout de suite parce qu'il est au cœur de la question. Et l'intervention de Jeanne, en fait, rebondit sur ce que vient de dire Alain sur la communication froide et la communication chaude. En fait, on a parlé dans le titre, on est sur la question de la frontière aussi. Est-ce que le réseau abolit les frontières ? Finalement, est-ce que les pages Facebook, est-ce que les avatars que nous lançons sur le réseau, est-ce que tous ces éléments que vous-même utilisez, tantôt pour vous en inspirer ou tantôt pour exprimer, faire évaluer des idées par les amis que vous avez ou les forums avec lesquels vous communiquez, est-ce qu'il n'y a pas à travers ça une dilution de la frontière entre le passé et le présent ? Je m'explique, entre ce qui est passé et qui est mort et ce qui est en train d'être construit. Je veux dire, dans votre travail d'auteur, dans l'utilisation, Jeanne vient de le dire, elle dit, j'utilise le réseau pendant que j'écris. Hein, c'est ça, je suis sur le réseau pendant que j'écris. Est-ce que ça ne modifie pas votre manière de travailler avec les éléments narratifs que vous utilisez ? C'est-à-dire, tout ce qui est sur le réseau, ce sont des éléments du passé que les gens y ont mis. Et par rapport au présent, ce qui est un acte de création, l'acte narratif que vous êtes en train de créer, est-ce qu'il n'y a pas à ce moment cette frontière qui disparaît entre le passé, qui est perpétuellement réévoqué, en fait, puisque tout est disponible sur le réseau, tous les forums, tous les débats, je pense au débat sur la SF, est-elle métaphysique ou pas, sur ActuSF, combien de pages ?
780
et des poussières. 780 pages et des poussières.
Avant que Georges dise une horreur et que tout loque.
780 pages et des poussières, c'est du passé, ça va rester indéfiniment, si tout va bien, et je le souhaite, notamment pour ActuSF qui va fêter ses 10 ans, dans 10 ans, ces pages seront encore consultables. Est-ce qu'il n'y a pas
J'espère
là une manière...
J'espère bien que non, j'ai dit tellement de bêtises sur ce fil.
Est-ce qu'il n'y a pas là justement une manière d'abolir ou de briser la frontière, et peut-être de façon négative, entre ce qui est passé et qui fait partie d'un processus que finalement tout le monde n'est pas forcément obligé de pouvoir connaître, et le présent, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de créer au moment où vous le créez?
Moi, j'en ai pas la moindre idée, je comprends même pas la question, en fait.
Nous avons voilà, au premier rang l'éditrice des éditions Somnium qui me racontait récemment que Robert Heinlein a eu, tu me diras si je dis une bêtise, mais a eu à certaines époques de sa vie l'envie d'être provocateur et a fait des déclarations qui n'était peut-être pas le fond de sa pensée. Si ça n'est pas vrai pour Robert Heinlein, si je fais une confusion, c'est sans doute au moins vrai pour Philippe Kadic dans nos domaines. Il y a eu des auteurs qui ont pris des positions outrancières ou à l'opposé de ce qu'ils avaient réellement envie de dire et qui l'ont fait dans des circonstances où ils ont été enregistrés, où l'événement a été tracé, ce qui était beaucoup moins fréquent il y a quelques décennies que maintenant. Maintenant, à peu près tout ce que l'on fait laisse une trace dont on ne sait pas si elle disparaîtra. Et finalement, l'usage qui est fait a posteriori peut être très inquiétant parce que ce qui a été produit dans un contexte donné, pour un interlocuteur donné, devient quelque chose dissocié de son contexte qui aurait une espèce de valeur universelle que celui qui l'a dit, il ne serait peut-être pas du tout d'accord pour qu'on reprenne son texte hors contexte et qu'on lui donne une autre portée. Donc, je ne sais pas si nous sommes toujours très vigilants là-dessus.
Non, c'est très juste. Sur les forums, c'est assez marrant. Moi, j'ai fait l'expérience récemment d'un forum d'ActuSF où j'étais interrogé par les gens dans cette espèce de pseudo-temps réel du forum. Et moi, je ne suis pas du tout un praticien absolument opposé à Facebook. Je ne suis pas du tout un praticien des forums. Et donc, je me suis retrouvé dans une expérience inédite pour moi. Peut-être que vous avez beaucoup plus l'habitude de ça. Et effectivement, ça me pose des gros problèmes de temporalité. C'est-à-dire que vous recevez une question... Vous allez y répondre parfois 3 heures plus tard, parfois immédiatement. C'est-à-dire que je recevais la question, puis j'étais en ligne et je répondais. Et il y a un phénomène de création artificielle de mémoire dans ces choses-là et qui est effectivement très perverse parce que vous avez une réaction qui est immédiate, qui est dans ce pseudo-temps réel, comme si vous discutiez, comme on discute là. Et en fait, vous figez quelque chose qui est gravé en fait, dans le marbre du réseau. Quoi, puisqu'en plus, maintenant, on archive. Essayer de sortir Facebook, apparemment, c'est extrêmement difficile. On archive indéfiniment ce que vous avez dit, quoi. Donc c'est très difficile ça à gérer, c'est très difficile à gérer ce temps réel qui devient un passé, qui devient une mémoire et qui s'inscrit en plus des personnages publics, donc qui s'inscrit comme, voilà, comme quelque chose de marmoréen. Ça c'est très, très angoissant. Et surtout j'avais le sentiment, avec le flux de questions, que j'avais une sorte de multiple dialogue au même moment et j'arrivais pas à gérer les temporalités, à repousser vers le passé un dialogue en y répondant, à accepter celui qui allait venir, à anticiper celui qui allait venir. Et j'étais là en train de reculer, accélérer, et la frontière, je n'arrivais pas à la passer. Je n'arrivais pas à être dans un temps réel, je n'arrivais pas à être dans une temporalité qui est très claire quand je suis là et qu'une seconde se déroule en une seconde. Et ça, ça me posait problème. Et il y a une deuxième chose qui me frappe aussi sur la notion de frontière, c'est que moi, j'ai l'impression que... Et j'ai eu le gros problème en travaillant pendant 3 ans sur le jeu vidéo, où j'étais en permanence sur le mail et les mails arrivaient, c'est que je n'arrive plus à poser ma frontière entre le continuum collecté et la solitude créatrice. C'est-à-dire que j'arrive plus à savoir à quel moment je dois fermer la porte et à quel moment je dois rester ouvert et en interaction avec ce flux continu qui est technique et qui est... Et du coup, cette espèce de frontière entre le privé et le public, entre l'échange et la solitude qui est notre peau, quoi. Et cette peau, c'est important de la gérer, j'ai envie de dire, j'aime pas dire gérer, mais en tout cas de la faire respirer correctement, d'inspirer au bon moment, d'expirer au bon moment, parce que c'est cette respiration qui fait qu'on est vivant, qu'on est libre. J'ai du mal à gérer cette membrane, donc cette frontière, en disant je me déconnecte et je rentre dans ma coquille ou je réouvre la membrane. Et cette frontière qui circule l'avant en arrière, je trouve ça très difficile. Moi, en tout cas, j'ai un vrai problème psychologique et anthropologique là-dessus. Je n'arrive pas à gérer correctement mon rapport à la continuité du réseau, quoi. J'arrête pas de m'en plaindre, j'arrête pas de l'utiliser. Je suis, comme beaucoup, traversé par cette schizophrénie. Et donc, c'est un enjeu. Donc, c'est un enjeu d'écriture parce que je suis à la fois des deux côtés constamment. Je suis un transfuge permanent et j'arrive pas à gérer le truc. Je sais pas comment faire.
L'une des difficultés sur ton travail d'auteur par rapport au réseau.
Ouais, complètement.
T'en fais pas, Alain. Tes enfants, ils sauront le gérer. C'est moi, je le sais. Hein, c'est à ce moment-là que je sais que je suis vieux. C'est-à-dire que je suis comme tout le monde. Je découvre ça. Je galère avec. Je me trompe. Les enfants de maintenant, les gens qui sont des utilisateurs massifs et intelligents des réseaux, de ces technologies, ils savent déjà que tout sera gravé dans le marbre, que tout restera, et ils savent construire une personne publique, justement. Il y a une construction de personnage qui est permanente. Je sais qu'il y a des gens ici, dans ce milieu, tu sais, qui y arrivent très bien aussi, qui arrivent très bien à fabriquer un personnage. Il y a des gens qui essaient d'être eux-mêmes. Ça marche aussi pas mal d'être soi-même.
C'est mieux d'être soi-même parce que
des fois c'est plus drôle de pas être soi-même. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais en réalité, on construit un personnage public qui peut être soi-même, qui peut être quelqu'un d'autre. Et puis, je soutiens Alain à fond. Hein, faut pas se faire d'illusions. On a beau avoir ses réseaux, on a beau avoir la communication, on a beau avoir les copains, Facebook, le mail, tout ça. Écrire, ça aide pas. Hein. Écrire, c'est on est tout seul. Voilà.
Il vaut mieux être en présence. Hein.
J'ai cru un moment que j'avais envisagé juste un moment de dire tiens, je vais tenter de rendre public une partie de mon processus d'écriture. C'est-à-dire de dire.
C'est un peu ce qui se passe parfois avec des auteurs qui.
J'y crois absolument pas. Enfin, moi, en ce qui me concerne, pour moi, j'ai envisagé, je me suis dit tiens, là, j'ai fait un bon paragraphe, je vais publier, ça va être sympa, comme ça, les gens que ça intéresse pourraient suivre. Puis non, mais mon bon paragraphe, qu'est-ce que c'est là? Je sais très bien que je suis en train de faire un truc, que c'est pas figé, que c'est pas fini, que ce sera pas fini avant un an, que de toute façon, mais je vais pas publier ça, c'est pas possible, même si j'en suis content sur le coup. Peut-être que ce sera dans le livre un jour, mais qu'est-ce que j'en sais maintenant? Et qu'est-ce que je vais emmerder les gens avec mon truc? Et qu'est-ce que...
Vas-y.
Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, 80% de ce que j'ai écrit, je l'ai écrit sur le net, en fait. La vieille anglaise et le continent... Stratégie du réenchantement, qui est un recueil de nouvelles paru chez Griffe d'encre cette année, je l'ai écrit avec l'atelier d'écriture de Parchemin et Traverse, des gens que je n'avais jamais rencontrés il y a 5 ans, qui m'ont fait des remarques, qui ont accompagné l'écriture, parfois chapitre par chapitre. Ces gens-là, d'abord, je ne les remercierai jamais assez, alors je recommence, merci. Mais vraiment, leur regard en temps pratiquement réel. Je leur livrais le chapitre, ils commentaient tout de suite. Ils me disaient ça marche, ça marche pas, ça me gêne. Ça a vraiment été extrêmement précieux. Et c'est là que c'est à ce moment-là que j'ai appris à utiliser le réseau en tant qu'écrivain dans mon processus narratif, avec une réactivité du bêta-lecteur immédiate.
Si je faisais ça, j'aurais l'impression de céder à une déviance.
Ah bah peut-être, mais je suis profondément déviante.
Donc vous voyez...
je parle pour moi.
Vous voyez à quel point ces quatre auteurs ont un rapport au réseau dans leur acte de créativité, dans leur acte de création, qui est complètement différent. Alain, plutôt gêné par l'immédiateté et la confusion, ce que j'essayais d'évoquer tout à l'heure entre le passé et le présent. Jeanne, qui vous avoue littéralement avoir publié 80% de son
c'est
travail
d'abord.
C'est même
pas un aveu, c'est une revendication.
Une revendication sur le réseau. Il y a un rapport très différent à ça. J'aimerais continuer sur ça avant de passer à l'aspect géopolitique et culturel aussi des frontières. Encore un moment, je pense qu'on a encore le temps pour ça. Par rapport à votre mécanisme de, pas vos sources d'inspiration, mais vos mécanismes de recherche de matériel. Vous utilisez tous certainement le réseau, vous utilisez tous les sources que vous avez. Quel est votre critère, non pas de scientificité, mais quel est votre critère dans la sélection des sources, c'est-à-dire quand vous allez sur des sites pour récupérer des éléments de biologie, d'histoire dont vous avez besoin, d'abord, est-ce que vous allez spontanément d'abord sur le réseau ou est-ce que certains d'entre vous, on peut toujours le rêver peut-être, aller plutôt en bibliothèque ou vous tourner vers votre bibliothèque personnelle avec les ouvrages que vous avez déjà? Et surtout, comment vous discriminez? Comment vous sélectionnez? Est-ce que quelque chose qui est dit dans un forum peut être pris tout de suite? Est-ce que quelque chose qui est dit dans un blog est tout de suite utilisé? Ou vous allez plutôt chercher des articles scientifiques qui ont été mis en ligne ou des choses comme ça? Comment utilisez-vous le réseau pour vous en nourrir?
Hugo, rassure-nous, tu ne crois quand même pas qu'on met des vrais bouts de vraie science dans ce qu'on écrit?
Non, mais en tout cas...
Non, mais sérieusement, je pense que le travail de l'auteur de science-fiction, y compris quand il écrit de la hard science, y compris quand il maîtrise très bien le domaine, c'est justement... de mélanger des morceaux de vraie science avec des morceaux de science éventuellement envisageables un jour et même des morceaux de science à laquelle personne ne croit sérieusement dans le milieu scientifique, sinon il n'y aurait pas d'histoire de voyage dans le temps. Il y a des pans entiers de la littérature de science-fiction qui disparaîtraient si on devait n'écrire que des choses sérieuses. Donc, si je peux me permettre de répondre à mon niveau, quand je fais des incursions dans un domaine scientifique où je ne connais rien, ça arrive, il faut un peu de vocabulaire, il faut quelques mots, mais on n'a pas besoin d'aller approfondir une théorie. Si on n'est pas soi-même spécialiste du domaine, ce serait complètement suicidaire. Et si on veut vraiment creuser le sujet d'un point de vue de la hard science, il est quand même préférable d'être un tant soit peu informé. Et la question des sources... Je pense qu'elles sont utiles pour faire des vérifications, mais qu'à ce moment-là, la légitimité de la source, qui est quelque chose sur lequel on essaie de travailler quand on fait des formations sur les sciences de l'information, donc, mais elle n'a pas un si gros enjeu quand on est auteur, je pense.
D'accord.
Peut-être un... Oui, évidemment, quand je consulte le réseau pour avoir des sources, surtout depuis que je me suis mis à travailler dans le contemporain et sur des sujets qui n'étaient pas des histoires de gars avec des épées, tout ça, là, il n'y a pas besoin d'avoir de sources, il suffit juste d'avoir fait les choses soi-même. Donc là, c'est une autre chose. Voilà, monter à cheval, se battre à l'épée, ça, c'est un truc que je connais, donc je peux en parler. Mais par contre, pour ce qui est du contemporain, évidemment, je consulte mes sources, je vérifie tout et je parle que de choses parfaitement vérifiées. Enfin... Pardon, j'ai dit ça ? Oui, on a besoin de mots, on a besoin de vocabulaire, on a besoin de faire semblant, on a besoin que ça ait l'air vrai, parce que c'est ça qui est vraiment important. Et si la personne qu'on cite a fabulé complètement, mais qu'il s'avère que ça colle parfaitement avec ce qu'on veut dire dans le roman, c'est parfait. Enfin, mon modèle là-dedans, c'est Huysmans. Le À rebours, qui est un livre magnifique, qui ne relève pas vraiment de la science-fiction, dans À rebours, Huysmans fait des étalages de connaissances merveilleux sur les parfums, les fleurs, la culture des orchidées, les tortues géantes et surtout les auteurs chrétiens latins tardifs du 5e siècle. Voilà, il a lu des livres et après il a tout inventé. C'est un homme merveilleux.
Ok. Un commentaire sur les sources ou...
Je suis complètement d'accord avec Sylvie. Les vrais bouts de science, il y en a, forcément. Parce qu'on a quand même été à l'école à un moment donné. Mais en gros, en fait, je fais plutôt appel à des gens de mon réseau pour passer mes textes au crible du vraisemblable. Est-ce que ça passe ? Et notamment, un de mes lecteurs de ça, je l'ai rencontré sur le net. J'ai commencé par m'engueuler superbement avec lui sur une sombre histoire de 4x4. C'était Eric Picheul. Et... il a lu notamment le livre qui est paru à l'Atalante, Plagueurs, voilà, en me conseillant fortement d'enlever tous les aspects scientifiques que j'abordais dedans, parce que je délirais complètement. Je n'ai pas complètement suivi son conseil, parce que c'était plus rigolo comme ça. Mais voilà. Sinon, d'accord. Wiki, c'est bien. Hein.
Oui, on n'a pas encore parlé de Wikipédia, mais ce n'est pas forcément le sujet là, tout de suite.
C'était juste pour embêter Hugo.
Oui, oui. Mais on peut, non, non, mais on peut en parler, parce que Wikipédia, c'est aussi une question très importante. Mais,
d'accord, mais tu promets de ne pas parler de Welbeck.
Non, je ne promets pas. D'ailleurs, j'avais prévu d'en parler. Non, mais c'était en filigrane, hein, sur les sources. Tu d'accord. vois, c'était pour ne pas parler de Welbeck, mais bon, voilà. Donc, c'était en filigrane sur les sources. Non, sur la question maintenant, un petit peu quand même, je l'ai un peu gardé pour la fin. Puis après, il y aura les questions pour le public. Hein, ça, c'est très important que vous ayez le temps de poser vos questions aux auteurs. Sur l'aspect géopolitique, sur l'aspect liberté individuelle, les auteurs de science-fiction ont comme personnage principal, en général, une société. La science-fiction, c'est la littérature de la société, la littérature des sociétés potentielles. Elle a des racines utopiques. La littérature des sociétés en négatif, des sociétés qui sont le contre-exemple de la nôtre, ou de ce qui est en germe dans notre société, que les auteurs de science-fiction, pour vous, vont déformer, vont extrapoler, vont mettre en lumière. Internet n'est pas un monde sans frontières, à mon sens, je le dis de façon provocatrice. On le sait très bien, des pays non démocratiques peuvent très bien suspendre la connexion de leurs ressortissants lorsqu'ils le jugent nécessaire. Alors, je pose la question là maintenant, non plus aux auteurs qui se sont largement exprimés, mais aux citoyens que vous êtes tous. Dans votre utilisation d'Internet, dans l'utilisation des réseaux, y compris Facebook, y compris Twitter, on n'a pas parlé de l'immédiateté de Twitter, mais qui est à la fois intéressante et remarquable par bien des points, pensez-vous que le réseau puisse être un instrument de défense des libertés individuelles ou au contraire que le réseau ne fait au final que refléter les frontières politiques et les frontières éventuellement de liberté et les frontières culturelles qui existent déjà? Est-ce que le réseau change le rapport à la liberté ou est-ce qu'il ne fait que refléter les failles et les limites de cette liberté, selon vous?
Je peux répondre en tant que prof. Je suis prof de français aussi et je me retrouve très souvent confrontée au problème du gosse qui n'a pas accès au net. Et ça, c'est horrible parce qu'il a moitié moins de chances de réussir l'exercice que je lui ai donné que son petit copain qui, lui, a accès au net. Alors, dans l'éducation nationale, on prétend qu'on peut aller sur Internet dans les collèges et les lycées. C'est pas vrai. Il y a des heures spéciales, les mômes n'y ont pas toujours accès, il y a des classes qui, du fait de leur emploi du temps, n'y auront jamais accès. Et moi, ça me consterne. Oui.
Juste une précision technique, on a quand même envisagé il y a quelques années le cartable numérique, qui était un outil nomade qui portait des contenus, et pour des raisons purement économiques, on a remplacé ce concept de cartable électronique ou numérique par le concept d'espace numérique de travail, qui impose que les gamins aient des ordinateurs chez eux, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, donc c'est une philosophie différente.
Oui, et il y a des départements en France avec des buts sociaux élevés comme les Landes, où les gosses ont fourni par le département le portable, et à partir de là, d'où qu'ils viennent, hein, du moment qu'ils sont scolarisés, ils ont le portable. Mais je peux vous dire qu'à Paris, dans le Gers, ça n'est pas le cas. Dans ma salle info, il y a 8 postes. Et j'ai 25 élèves. Voilà. Or, ils doivent valider à la fin de leur troisième un truc qui s'appelle le B2I, où ils devront faire preuve de leur capacité à utiliser Internet. Et là, d'entrée, on met la barre sociale. Donc, l'école en tant qu'ascenseur social, déjà, c'était... Mais alors, avec le net en plus, les inégalités se creusent.
Finalement, ce que vous dit Jeanne, c'est que loin de remettre en cause les frontières politiques, le net, souvent, ne remet même pas en cause les frontières sociales.
Certainement
pas. Les fractures entre différentes... Est-ce qu'on ne va pas, finalement, vers un monde à deux vitesses? Le monde des augmentés, le monde déconnecté, le monde de ceux qui bénéficient de l'intégralité de la technologie immédiatement, et puis les autres?
Bien sûr. Georges, tu exagères un peu. Dans les cavernes, le Wi-Fi marchait très mal.
Alain. Non, moi, je crois qu'il y a...
Oui.
Je crois qu'il y a énormément de frontières qui sont maintenues. Bon, il y a la frontière sociale qui est très forte. Je pense que même en France, on doit être peut-être à 80% de pénétration du net chez les gens. Ça veut dire qu'une personne sur cinq n'a pas du tout accès. Ensuite, mondialement, il y a énormément de pays sur lesquels le taux de pénétration d'Internet est très faible. Je ne sais pas combien, je dirais une connerie si j'essaie de faire une proportion mondiale, mais ce n'est pas non plus délirant. Et ensuite, je dirais même qu'il y a une frontière intérieure d'usage qui est liée à la langue. C'est, moi, par exemple, je pourrais aller sur des sites japonais ou chinois, mais je suis incapable de lire le japonais et le chinois. Je pourrais aller sur les sites arabes, mais je suis incapable de les lire. Donc je peux taper l'adresse, mais ça aboutit à quoi? Absolument à rien.
Il y a un truc qui s'appelle l'outil linguistique.
Qui
permet de traduire.
Ouais, qui permet de traduire, mais bon, tu vois, de fait, tu vas pas. L'usage t'auto-contraint, tu fais de l'autocensure, tu restes sur tes familiarités. Même en termes de sites, moi je vais sur très peu de sites finalement, par rapport à l'étendue du net. Je reste dans une dimension d'espace qui est aussi faible que celle où j'habite physiquement. Quoi. C'est pas... Donc c'est très illusoire. Ouais. Moi je crois que ça reconduit, comme tu disais, les frontières et les limites qu'on a déjà. Enfin,
Sans compter les frontières de la langue que j'avais pas encore évoquées, qui sûr. Évidemment sont cruellement sensibles dans l'accessibilité au réseau.
Il y a une autre manière de relier la question du politique avec la question d'Internet. C'est que, curieusement, Internet n'est pas gouverné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une instance réellement identifiable qui décide des priorités et de la manière dont ça va se mettre en place. Et alors moi, dans mon domaine de recherche, il y a quand même un certain nombre de constats troublants qu'on peut faire. Quand on cherche de l'information, alors évidemment, il y a des sites qu'on connaît et qu'on va toujours voir. Mais tu parlais d'ouverture sur le monde, Jeanne parlait d'ouverture à la culture. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on ne connaît pas encore. Et personne, à l'heure actuelle, ne sait exactement sur quel principe les moteurs de recherche classent les réponses. Quand vous adressez une question à Internet et qu'il y a 70 pages de réponses, en général, on ne regarde que la première page, éventuellement la deuxième. Mais sur quels critères exacts certains sites arrivent-ils en première page et d'autres en 35e page? On a de vagues idées d'indicateurs basés sur le nombre de liens qu'il y aurait vers les sites. Mais personne ne sait exactement comment fonctionnent ces algorithmes. Il n'y a pas de transparence.
D'ailleurs,
personne ne sait quel contrôle ou quelle manipulation ou quelle pression économique il y a derrière. Et moi, je suis désolée, mais je n'ai aucune confiance dans l'intégrité, la probité et l'honnêteté absolue de développeurs de moteurs de recherche qui ont une activité purement commerciale. Pourquoi est-ce que ce seraient des gens qui seraient portés par une intégrité et un souci d'éthique qui n'est pas si fréquent dans un environnement purement économique et... Enfin, je suis inquiète.
Je tiens à dire que la société dont je porte les couleurs a des standards éthiques. Je parle de Clear, qui s'occupe de... Enfin, qui est très investi dans ces réseaux, a des standards éthiques extrêmement élevés et défend la privacy, votre vie privée et les libertés individuelles. Voilà, elle a été reconnue de manière par plusieurs ONG. Et je veux dire, il y a des modèles.
On est pratiquement dans la novlangue de 1984, je pense. Bien, je crois qu'il nous reste encore une bonne dizaine de minutes. Alors, c'est les questions du public. J'espère qu'elles seront nombreuses. Parce que nous, on a encore beaucoup de sujets à aborder. Mais c'est l'occasion jamais d'avoir ce retour et cet aller-retour avec les auteurs qui sont ici pour vous en parler. Alors, je vois une question là-bas. Est-ce qu'on a un micro
Il est là.
Alors,
faut le jeter.
Voilà. Merci.
Alors, ce n'est pas tout à fait une question, mais c'est une référence pour la société de l'information, les gens qui y ont accès ou qui n'y ont pas accès. Si vous avez la chance de tomber sur un bouquin de John Brunner qui s'appelle « Sur l'onde de choc »,
dont on a parlé au début,
dont
Alain a parlé au début.
Excusez-moi, dans ce cas, j'ai raté le début de... Dans ce cas, je me tais.
D'accord, on était dans le sujet. Une question ? Oui, là, s'il vous plaît. Merci, Estelle.
Hugo, enfin, a fait référence aux novlangues, justement, de Orwell. Et justement, au-delà de la qualité orthographique, on voit que sur Internet, quelque chose de proche du compagnonnage au Moyen-Âge, avec des communautés qui arrivent avec une certaine langue incompréhensible sans cooptation. Est-ce que cette influence du réseau et de la communauté sur le langage est quelque chose d'envisagé par les auteurs ?
Évidemment, enfin, à partir du moment, de toute façon, où on travaille à décrire une société autre, une société différente, on se heurte en plein dans la figure à la question de la langue. On n'est plus dans la SF des années 50 où on pouvait utiliser la langue de contemporaine pour dire « Eh bien, vous voyez, dans cette société, de nouveaux concepts sociaux existent et ils s'appellent comme ça. » On n'a plus le droit de faire ça. Non, on n'a plus le droit parce que ça ennuierait le lecteur. Donc maintenant, on est obligé de plonger dans des concepts, si on veut les faire sentir, on est obligé de trouver la langue, mais je ne parle pas obligatoirement d'une langue étrangère. Je parle de tournure de langage, de vocabulaire, de choix de vocabulaire, de choix de discours qui permettent de rendre compte de cette société. Et je m'en rends compte à tout. Enfin, moi, j'étais flemmard, je faisais de la fantasy avant. Voilà,
mais ça va bien, oui.
Je suis
calme-toi.
Je suis guéri, je vais mieux. Maintenant, j'ai envisagé de gagner de l'argent, de m'intéresser à des sujets porteurs. Et dès qu'on s'intéresse aux contemporains et au futur, enfin, et notamment, ce travail sur la langue, il a deux niveaux. Un, pour rendre compte de la communauté, de la société qu'on essaie de décrire, et au deuxième niveau, pour la faire passer au lecteur. Parce que l'auteur de SF, il ne peut pas se contenter d'utiliser le vocabulaire de la communauté, il faut aussi qu'il ait un lecteur que ça intéresse et qui arrive à comprendre à travers ce vocabulaire de quoi il parle.
Je conseille le mot métaphysique, ça marche super bien.
784 pages, c'est ça?
Absolument.
Bien, une autre question encore sur les réseaux, leur rapport avec les frontières, la littérature, oui?
Où?
Là, derrière, voilà, là, oui. Merci beaucoup.
J'ai des origines paysannes et en fait, pour moi, Internet, c'est un outil. C'est un peu comme l'invention de la tronçonneuse, quoi. Avant, il y avait l'âge, après, il y a eu la tronçonneuse. Je sais pas, dans tous les débats qu'il y a sur Internet, on voit jamais cette dimension d'outils, ni plus ni moins. Une tronçonneuse, c'est dangereux. Peut-être un peu plus qu'une hache. Voilà, c'est tout.
Je peux répondre là-dessus, parce que je suis absolument pas d'accord avec toi, pour le coup. C'est-à-dire qu'Internet n'est pas un outil, Internet c'est un rapport au monde, c'est un nouveau type de rapport au monde. C'est un cas où la technologie nous englobe, et on est obligé de s'inscrire en elle, alors que le marteau, la tronçonneuse, la hache, etc., c'est un outil que tu prenais et que tu reposais.
Tu es
inclus à l'intérieur de la technologie et ça change totalement ton rapport au monde. C'est pour ça que c'est très difficile et très dangereux, à mon sens. Ouais.
Tu sais qu'il y a un bouton derrière ton ordinateur.
On peut éteindre
un bouton, bien sûr.
On peut poser.
Oui, mais ce bouton, le problème, c'est que voilà, vous en servez de moins en moins, en fait, en réalité.
Si tu veux, c'est comme la voiture. Il y a des gens qui vont te dire... Il y avait des textes extraordinaires d'Ivan Illich. Je ne sais pas si vous connaissez Ivan Illich, mais c'est un philosophe des années 70 qui est pour moi super intéressant sur l'analyse de la technique. Et il analyse la voiture. Et il dit, la voiture, ce n'est pas simplement quelque chose dans lequel on rentre et puis qui nous permet de déplacer d'un point A à un point B. La voiture, elle a absolument révolutionné l'espace sur la Terre, quoi. On a créé des milliers de kilomètres, des millions de kilomètres de routes. On a architecturé nos villes en fonction d'elles. On a totalement changé nos rapports à l'espace et au temps. Et donc, on croit... C'est un outil, mais ce n'est pas un outil, quoi. C'est une nouvelle façon de vivre et de s'inscrire dans le monde. C'est une nouvelle façon d'habiter le monde qu'a amené la voiture.
Christine.
Et ça n'a rien à voir avec la tronçonneuse. Ce n'est pas un outil que tu prends.
Mais tous les outils.
Pour moi, la métaphore n'est pas juste, quoi.
Voilà. Tous les outils ont révolutionné le monde. L'épée, la machine à laver le linge. Tout ça, c'est des révolutions.
Oui, mais ce n'est pas des révolutions qui changent ta façon d'habiter, qui changent ta façon de te comporter avec les gens. Qui changent ton rapport au monde d'une façon fondamentale. Quoi,
alors,
tu peux ne pas laver le linge, tu peux le laver à la main, ça ne va pas changer fondamentalement ton rapport au monde.
Ah si.
Alors, vous continuerez ce débat après, mais il y a quand même d'autres questions encore et on continuera peut-être après, descendu de l'estrade. Il y avait une question là au premier rang, Célène. Ouais.
Moi, j'ai un rapport très positif avec Internet et tout ça, mais je voulais raconter un épisode qui s'est passé ces derniers jours par rapport à la frontière linguistique, justement. Alors, il y a eu un moment où on s'est rendu compte qu'en écrivant en italien, io non ho votato Berlusconi, je n'ai pas voté pour Berlusconi, en plusieurs langues, moi je l'ai testé en français, en anglais, en espagnol et en allemand, et on avait « J'ai voté pour Berlusconi ». Ça a duré 2-3 heures, mais ça a marché. On a pensé que c'était quelque chose qu'on circulait sur Internet. C'était pas vrai, non, c'était vrai, moi je l'ai testé. Et donc bon, à propos des frontières, du danger, si on veut. Mais bon, moi, je suis un peu sceptique sur, sur les côtés négatifs. Parce que moi, personnellement, je n'aurais pas de, de communauté sans Internet. Donc...
Merci, Céline. Est-ce qu'il y a encore des questions parmi vous? Oui, allez-y. Moi, j'en réserve une pour la fin, mais je ne sais pas si j'aurai le temps.
C'est peut-être un tout petit peu naïf, c'est par rapport à réseaux et frontières, en fait, et d'un point de vue un peu politique et concernant le vivre ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez un film qui s'appelle Eight Wonderland. En fait, c'est un film qui met en scène, en fait, plusieurs internautes qui se sont connectés, qui ont créé un nouveau pays, en fait, et qui votent les lois. Donc, il y a le questionnement de la dérive vers, justement, la dictature, etc. Mais c'est, moi, je comprends les dangers, je les conçois. Je suis d'accord avec Alain par rapport à la chaleur humaine qui manque dans les réseaux virtuels. Mais est-ce qu'on n'a pas là, finalement, l'opportunité peut-être de dépasser nos frontières, qui sont des frontières un petit peu figées et qui posent énormément de problèmes aujourd'hui, pour, justement, créer un nouveau vivre ensemble. Avec effectivement une petite partie de la population mondiale, parce que je suis bien d'accord que socialement, il y a énormément de gens qui n'ont pas accès à ça.
Oui, très bonne remarque. Je n'ai pas vu ce film, malheureusement, mais j'en ai effectivement entendu parler. Et c'était une bonne illustration, ouais, tout à fait.
C'est un excellent
il est peut-être
film
au programme,
que je conseille à tout le monde.
Oui, tu l'as vu, ouais. Merci pour cette intervention qui complétait bien sur l'aspect géopolitique qu'on aurait pu creuser encore plus. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non? Alors, oui. Ah, voilà. Allez-y.
Merci. Il me semble qu'il y a un point particulier. Je me demande ce qu'il resterait du réseau si on enlevait simplement le fait qu'il accélère tout. Supprimer l'accélération chronologique due au réseau. Qu'est-ce qu'il en reste qu'on ne connaissait pas déjà avant en termes de pratiques sociales et autres? On ne peut pas lire une page d'Internet en japonais, puis après, quand c'est un journal en papier, on peut la lire? Non, c'est la même chose depuis qu'il y a du papier imprimé en japonais. Aucune différence à ce niveau. Et à plein d'égards, me semble-t-il, c'est un accélérateur et donc un réducteur, parce qu'on n'arrive pas à suivre soi-même ce qu'on a produit. Mais sinon, je vois peu de problèmes qui seraient, par exemple, créés par l'existence de ces réseaux-là. Ces problèmes, y compris les problèmes scolaires, etc. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça date du réseau? Je ne pense pas.
Et beaucoup de choses du réseau sont déjà très connues. C'est vrai que sur cette instantanéité de la communication, c'est peut-être ça qui en fait la spécificité. C'est Larsen. Oui, c'est l'accélération qui fait la spécificité du réseau. Vous êtes d'accord avec ça? Et j'ai une dernière question, moi je vais me permettre de la poser, tant pis, même si on dépasse un peu, je vois personne pour me,
oui,
pour me sortir de ma place, donc ça va.
Après,
mais très rapidement, on a peu parlé de politique, on a un peu parlé d'économie. Moi quand je pense à réseau en tant qu'historien, je pense aussi à réseau de résistance. Et j'ai envie de vous demander si vous, dans votre pratique du réseau, vous avez l'impression parfois de pouvoir faire de la résistance par rapport à un monde qui peut-être ne vous parle pas, ne vous plaît pas. Et si oui, est-ce que vous pensez que le réseau peut être retourné contre lui-même et devenir un lieu de résistance? Voilà, je voudrais finir sur ça.
Alors, je voudrais répondre.
Pour abattre les frontières.
Pour abattre les frontières, voilà. Je me suis servi du réseau, là, en septembre, pour faire admettre mon fils à l'école. C'est-à-dire que mon fils est autiste. Et que l'éducation nationale, pour faute de moyens, ne lui a pas attribué d'AVSI, c'est-à-dire une aide de vie scolaire, alors que nous avions fait tous les papiers, tout était prévu, etc. Il aurait dû faire sa rentrée. Tout était bon, on nous l'avait juré. Sauf qu'on arrive en septembre et on ne l'a pas accepté. Alors j'ai pris un coup de colère, mais noir. J'ai écrit à rue 89 et j'aurais décrit la situation, mais de A jusqu'à Z. Ils m'ont juste dit, il va falloir en rajouter un peu plus. Alors je me suis renseignée auprès du GERS et j'ai fait le tour de tous les parents d'autistes que je connaissais. J'ai appris qu'il y avait 80 gamins qui étaient sur le sable, par le réseau exactement. Il y a un réseau qu'on appelle ASPI, qui est celui des non-neurotypiques, c'est-à-dire les autistes Asperger. Voilà, qui m'a appris donc qu'on était 80 sur le sable. Donc j'ai fait mon article et je l'ai fait vraiment teigne.
résultat des courses. D'abord, il y a eu pas mal de commentaires sur l'article de rue 89. Ensuite, il y a eu une intervention qui était clairement téléguidée par l'Académie. C'était merveilleux. Où on me disait, mais il faut vous rendre auprès de, du médiateur de la République, etc. Mais ça avait déjà été fait. Et résultat, mon fils est en classe, là. Donc, ça y est. Alors que si j'avais fermé ma grande gueule, on en avait jusqu'en janvier.
Donc c'est grâce au réseau que tu as
fait. C'est grâce au réseau, oui. D'accord. Parce que j'ai fait un buzz, parce que je me suis roulé par terre, parce que Sud-Ouest a lu rue 89 et donc a répercuté directement dans le département et a mis mon inspecteur d'académie dans une difficulté qu'il n'avait pas prévue. D'accord. En rapport de force, ça marche assez bien, le net.
Ok, merci Jeanne. Les trois autres présents voulaient un mot de la fin sur la résistance.
Juste un petit mot, oui, bien sûr, tu peux l'utiliser à l'envers. Le cas qu'on avait fait, c'était l'appel d'air contre Sarkozy au moment de l'élection, où on a mobilisé une quarantaine d'auteurs de science-fiction en très peu de temps.
Par le réseau.
Par le réseau, voilà. Et en très peu de temps, on a pu constituer une force de résistance, et je pense qu'on peut être fiers d'avoir fait en plus.
Tu sais, ça n'a pas marché, hein, il est là quand même.
Ah merde,
Sylvie et Laurent, pour le mot de la fin, sur la résistance.
Je veux bien dire une banalité avant de passer le micro à Laurent, mais trop de buzz. Malheureusement, Jeanne a réussi à faire entendre son buzz d'une manière efficace. Je pense que ça va être de plus en plus difficile. Trop de bruit, trop d'informations tue l'information. Enfin, c'est une banalité, mais je me demande si je ne préférais pas l'époque où on pouvait écouter France Culture et France Info. On peut toujours, mais on ne le fait plus. Enfin, on le fait pas autant. Maintenant, on écoute son réseau Facebook avec l'impression, j'avoue que moi, je finis par avoir l'impression que s'il se passe quelque chose de vraiment intéressant de mon point de vue, les gens que je connais vont finir par me faire remonter l'info. C'est comme ça que j'ai su pour Houellebecq, par exemple, c'est par Facebook.
Ça, mais c'est important.
Ça a été très vite. Mais je crains que ce soit une illusion, c'est-à-dire que je ne vais entendre que ce que ma petite communauté que j'ai reliée par affinité et qui finalement ne représente qu'une toute petite partie du monde significatif et qui est uniquement ciblée sur mes centres d'intérêt. Et je crains que ce soit pire encore que la situation antérieure où c'était quelque chose d'extérieur qui décidait à ma place de ce qui était important. Je crains d'être pire encore.
D'accord. Bien, le mot de la fin sera donné par le représentant de CLIR.
Voilà, donc tout à fait.
Écoutez-le bien.
Moi, je ne vois pas pourquoi il faut résister. Il suffit juste d'être dans le bon système. Merci.
Ok, merci à tous. Merci beaucoup.